VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Sommet Afrique, monde arabe. Le Maroc et plusieurs pays arabes ont claqué la porte de la réunion en cours ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour protester contre la présence d'une délégation du Front Polisario. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Gros investisseur en Afrique, le Maroc a quitté le 4e sommet Afrique-Monde Arabe sur le thème de la coopération économique avec 7 autres pays arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Qatar, Sultanat d'Oman, Jordanie, Yémen ainsi que la Somalie. La délégation marocaine a pris cette décision pour protester contre la présence de l'emblème d'une entité fantoche dans les salles de réunion, a indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération, cité par l'agence de presse marocaine MAP. Le Maroc considère le Sahara occidental qu'il contrôle comme partie intégrante du royaume, alors que le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance de cette ancienne colonie espagnole, réclame un référendum d'autodétermination. La délégation marocaine a quitté Malabo alors que le Maroc tente de réintégrer l'Union africaine, dont Rabat s'était retiré en 1984, pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, la RSD, du Front Polisario. Le coup d'éclat du Maroc a été sévèrement jugé sur le plateau de la télévision Africa 24, proche du gouvernement de la Guinée équatoriale, qui couvre le sommet en direct avec des duplex et des commentaires plateaux. Le Maroc a des partenariats avec l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique australe. On ne peut pas se permettre un tel coup d'éclat, a déploré un commentateur.
Au Cameroun, de violents heurts ont opposé lundi et mardi de jeunes manifestants aux forces de sécurité à Bamenda, ville du Nord-Ouest et fief anglophone de l'opposition dans le pays. Joshua Ossi, vice-président du Social Democratic Front, SDF, principal parti d'opposition, a affirmé à l'AFP que 3 personnes avaient été tuées lors de ces violences, 2 par balle et une troisième lors d'affrontements entre groupes rivaux. Selon lui, les manifestants réclament l'instauration du fédéralisme au Cameroun. Aucune confirmation de ce bilan n'a pu être obtenue de sources indépendantes ou auprès des autorités camerounaises. Le gouvernement dit être en train de rassembler les informations sur la situation à Bamenda, alors qu'un calme précaire prévalait dans la ville ce matin, toujours selon l'AFP. Et puis le Cameroun a rouvert sa frontière avec le Nigeria, relançant les activités économiques bilatérales après 2 années relatives à calmie concernant les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Toutefois, les voyages transfrontaliers font encore l'objet d'un contrôle strict et les commerçants se déplacent toujours sous escorte militaire. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
Des centaines de marchands sont de retour au marché frontalier de Limani, dans l'extrême nord du Cameroun. Ils se livrent avec leurs homologues venus du Nigeria aux activités commerciales interrompues il y a 3 ans par les incursions des islamistes nigérians. Pour Alhaji Bakari Balje, secrétaire général du marché de Gambaringara au Nigeria, la fin des atrocités de Boko Haram a permis de relancer le commerce avec le Cameroun. Nous remercions Dieu que cette place soit redevenue une source de revenus pour le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Et nous ne céderons à la manipulation de ce qui reste de Boko Haram et qui veut nous dominer. Boko Haram a déjà été défait. Pour sa part, le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Madjiama Bakari, prédit une réduction de la pauvreté endémique et de la misère dans la région du fait de la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Il a souligné la nécessité d'un contrôle strict du mouvement de biens et des personnes.
Les commerçants, les transporteurs nigériens partent aujourd'hui de Maïdougouri jusqu'à Gambaru, frontière avec le Cameroun. Nous ne voulons pas, pour tout dire, qu'il y ait des trafics d'armes ou des infiltrations ou des kamikazes. Tout se fera sous contrôle. Qu'il s'agit de desserrement, ce n'est pas l'ouverture totale, ce sera en gestion coordonnée. C'est une opération qui sera très suivie et qui fera l'objet d'évaluation. Les questions de retenir le gabarit des véhicules qui vont passer, le type de marchandises de part et d'autre ne vont pas traverser le pont. Tout sera déversé et fera l'objet d'un contrôle des fonds en comble.
Pour le général Jacob Kodji, commandant des troupes camerounaises déployées contre Boko Haram, cela fait 1 an que ces forces n'ont pas eu à mener d'offensive majeure contre les islamistes nigérians.
Le front est stable, il est calme, la frontière est encore intacte. Il y a une semaine, beaucoup d'incursions et des attaques ont été menées sur nos positions. En ce qui concerne les attaques, elles se sont soldées par la déroute de l'ennemi.
avec un bilan négatif. Nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine, encore aucun blessé, encore aucun matériel perdu. Les renseignements sur des ralliements, sur des dissensions, nous ne pouvons ni les affirmer, ni les confirmer.
L'espoir est qu'avec la réouverture de la frontière, les activités économiques et commerciales seront relancées dans la région, même si les autorités continuent d'être préoccupées par la sécurité des populations locales.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, 4 membres d'une force paramilitaire ont été tués lundi par des hommes armés dans une installation pétrolière de la filiale locale du groupe italien Eni. Les 4 membres du corps nigérian de défense et sécurité civile, une agence gouvernementale de sécurité, ont perdu la vie lors d'échanges de coups de feu avec un nombre indéterminé d'assaillants qui ont tenté de pénétrer dans l'installation pétrolière à Omoku, près du grand centre pétrolier de Port-Harcourt. L'attaque n'a pas été revendiquée et les responsables locaux d'AGIP, la filiale d'Eni au Nigeria, n'ont pas fait de commentaires. Depuis le début de l'année, le Nigeria est confronté à une recrudescence des attaques de rebelles contre ses installations pétrolières, ce qui a provoqué une chute importante de sa production de brut. Au Burkina Faso, les hôpitaux quasiment paralysés par une grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le plus puissant syndicat du personnel de santé du pays, pour exiger des augmentations de salaire et des indemnités. La grève de 72 heures qui doit prendre fin ce jeudi a été décidée par les travailleurs de la santé humaine et animale. Ils envisageaient une marche aujourd'hui. Notre correspondant sur place, Issa Apon, fait le point à Ouagadougou.
Les structures de santé publique avaient respecté le mot d'ordre des grèves sans service minimum. Pour le ministre de la Santé, sorti en tournée pour constater la réalité, une rapide paix des braves est nécessaire, Dr Smaïla Ouedraogo.
Sur une plateforme de 63 points, 59 points ont fait l'objet d'accord. Il y a 4 points qui ont fait l'objet de désaccord. Alors donc, j'interpelle les uns et les autres. Donc, à savoir que nous sommes dans un secteur quand même assez particulier, que le secteur de la santé, pour que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leurs vins.
Ailleurs, heureusement, quelques rares centres de quartier fonctionnent à peu près mieux, comme le dispensaire du quartier Wemtenga, où nous rencontrons le responsable, Abdoulaye Tarnagda.
Nous sommes obligés justement d'organiser des services minimums pour ne serait-ce que prendre en charge les urgences. Puisque nous savons que cette grève, nous la faisons, c'est à notre corps défendant.
Une première journée de grève très suivie et pour l'instant, aucun signe qui puisse inciter à l'optimisme dans une atmosphère déjà pesante dans les centres de santé publique. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, la justice a suspendu ce mercredi les poursuites intentées contre 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance qui sont accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe en dénonçant ses méthodes qu'il qualifie de dictatorial. Ils avaient également annoncé qu'ils ne soutiendraient pas une nouvelle candidature à la présidence du chef de l'État, qui est maintenant âgé de 92 ans. Cette décision de la justice impose au parquet de renouveler toute la procédure avant d'obtenir une nouvelle date d'audience. Et puis l'économie sud-africaine a du plomb dans l'aile avec un taux de chômage de 21,1% au troisième trimestre de cette année. Selon l'Agence nationale sud-africaine des statistiques, c'est le taux le plus élevé depuis 2003. Une situation qui met en lumière les inégalités prévalentes en Afrique du Sud 22 ans après la fin de l'apartheid. L'explication de David Zunmenu Dosu de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria.
Le secteur minier a été le secteur qui a pendant longtemps absorbé les demandeurs de travail, les demandeurs d'emploi. Sur ces dernières années, a connu des déboires, des difficultés. Certains ont fermé. Il y a eu même des situations vraiment dramatiques comme celle de Marikana où les mineurs se sont révoltés, ce qui a été soldé par une quarantaine de morts. Je pense que ça va rester une tache dans l'héritage politique du président Zuma, qui, au début de son mandat, avait promis créer 500 000 emplois par an. Malheureusement, la réalité sur le terrain économique n'est pas la même que la rhétorique politique. Et malheureusement, l'Afrique du Sud continue toujours de traîner un grand nombre de chômeurs qui constituent, à mon avis, un bétail électoral pour les populistes politiciens du pays.
David Zunmenu Dosu, chercheur à l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria en Afrique du Sud. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.